Radio Kapi.
S'ouvre par la clôture hier samedi dans le Nord Kivu des échanges des membres de la société civile autour du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Denise Loukesso nous parle tout de suite des diverses recommandations de ce premier forum. Nous vous parlons aussi de la transmission des connaissances d'administration publique et des procédures judiciaires aux jeunes de Butembo, une initiative du Conseil urbain de la jeunesse qu'accompagne la municipalité civile. Nous vous en parlons à longueur de journée depuis ce matin. Ce 16 janvier 2022, cela fait 21 ans depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Comme invité, nous recevons Raphaël Genda, ancien porte-parole de l'AFDEL et ancien porte-parole du gouvernement de salut public de Musée Laurent Désiré Kabila. Fidèles auditeurs, merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à Radio Kapi pour votre information. Restez avec nous pour en savoir davantage. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. À la présentation de cette édition de journal, Billy Ivan Lutumba. Le premier forum national du cadre des concertations de la société civile sur le PDDRCS, le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation et le plan de transition de la MONUSCO tenu à Goma, s'est clôturé hier samedi. Les participants ont recommandé la création d'un mécanisme de concertation et de collaboration entre la société civile et le PDDRCS. Aussi que la société civile soit effectivement impliquée dans toute la mise en œuvre de ce programme pour sa réussite et son succès en termes de suivi et d'évaluation notamment. 4 jours durant, une centaine d'acteurs de la société civile de 7 provinces de la RDC ont pris part à ces assises. L'objectif est de promouvoir une appropriation collective et une mise en œuvre harmonieuse du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et de la transition de la MONUSCO par la société civile congolaise. Denise Loukesso pour les détails.
Les participants veulent que les experts de la société civile soient intégrés dans les organes fonctionnels du PDDRCS à tous les niveaux, aussi bien national que provincial et local, pour donner la chance à la réussite de ces programmes. Dany Singoma, coordonnateur national de la société civile.
Si ces programmes existent, c'est parce que les experts de la société civile y ont beaucoup contribué. Et il est mieux que dans sa mise en œuvre, les experts de la société civile puissent intégrer ces mécanismes, et notamment les comités de pilotage. L'absence de la société civile dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de ces programmes est un manque. La réussite, c'est l'implication totale de la société civile et de toutes les autres parties prenantes, mais aussi l'accès aux moyens par la société civile, afin qu'elle puisse jouer véritablement son rôle, et cela donnera la chance à ces processus, que la société civile puisse jouer son rôle, qui est un rôle de veille, d'accompagnement, de pouvoir participer aux actions. Et cela va nous aider à pouvoir faire réussir ce programme.
Les participants recommandent à la MONUSCO d'œuvrer pour les transferts de compétences vers la société civile et les institutions du pays. Une centaine d'acteurs de la société civile de 7 provinces de la RDC ont pris part à ces forums organisés avec l'appui technique et financier du gouvernement congolais, de la MONUSCO, du PNUD et de la coopération allemande. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
En Ituri, 10 personnes ont été lâchement abattues et de nombreuses autres grièvement blessées par des assaillants hier samedi à Mumu-Kokonyangi. C'est à 13 km au nord de Bunia, non loin de la centrale de Solenyama dans le territoire d'Irumu. Selon le chef de cette entité coutumière, les victimes sont des chrétiens catholiques du mouvement Renouveau Charismatique qui étaient en pleine séance d'évangélisation dans ce milieu. Cette attaque a créé une tension sur place. Explication de Martial Kizabiamungu.
Samedi 15 janvier, il est 18h30 à Mumu. Des fidèles catholiques du mouvement Renouveau Charismatique sont en pleine campagne d'évangélisation. Soudain, ils sont surpris par une pluie de coups de balles. C'était l'entrée des assassins du temps de la coalition FPIC Codeco dans ces petits villages. Selon le chef de la chefferie de Babwa Bokoi, dans cette confusion, 10 personnes touchées par balles sont tuées à bout portant par ces miliciens. Parmi elles, 6 femmes et et un enfant. Tous les corps sont exposés devant les bureaux de la chefferie. 8 personnes grièvement blessées ont été acheminées à l'hôpital général de Bounia pour des soins. Ce dimanche matin, l'armée a engagé une offensive pour poursuivre ses hors-la-loi. Des détonations d'armes lourdes et légères sont encore entendues à Central Solenyama où on observe une tension. Les autorités locales plaident pour un déploiement rapide des forces de l'ordre à Solenyama pour prévenir tout débordement des manifestants. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans le sud Kivu, à Bukavu, un activiste des droits de l'homme retrouvé mort samedi 15 janvier dans un caniveau sur avenue Route d'Uvira dans la commune de Kadutu. Selon le collectif Amka Congo dont il faisait partie, il s'agit de Michael Chukuru qui, sorti depuis vendredi, n'est pas rentré chez lui et son corps a été retrouvé samedi matin. Le corps a été mis en terre le même jour à Burini dans le territoire de Mwenga. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées. Le collectif Amka Congo au sud Kivu demande aux autorités des éclaircissements sur cet énième cas macabre. Amos Bissimoua, membre de Amka Congo, est joint par Rachel Kiesembangu.
Il a quitté chez lui le vendredi la journée. Le soir, on l'attendait, il n'est plus rentré. Sa famille nous a dit qu'il a l'habitude de rentrer autour de 17h. Et au plus tard, quand il était dans une réunion, c'est autour de 19h. Mais on a essayé de tenter ce nid, mais les deux numéros qu'il utilise, les numéros ne passaient plus. Et hier matin, on a rencontré son corps sans vie, juste dans l'avenue où il vivait dans un caniveau. Il s'appelait Michael Choukour. Il était membre d'une structure qu'on appelle Refodej. C'est un membre du collectif Amka Congo. Mais aussi, il était assistant à l'ILPG. Les causes de sa mort jusque-là ne sont pas connues. Il aurait été assassiné quelque part et on est venu jeter juste le corps dans ce caniveau vers l'autre du village. Et c'était presque une affaire d'étranglement. C'est hier qu'on est parti enterrer à Burini, parce qu'elle était natif de Burini, dans le territoire de Mwenga. Le collectif des mouvements citoyens Amka Congo continue à demander aux autorités en place de mener toutes les enquêtes possibles pour que nous parvenions à savoir dans quelles circonstances notre collègue est mort, mais aussi les gens qui étaient derrière cette mort.
Dans le Nord Kivu, à Butembo, le Conseil urbain de la jeunesse a lancé une série de formations des jeunes sur différentes compétences, dont l'administration publique. Hier samedi, deuxième rendez-vous de la formation, les participants ont été outillés sur le thème autour de la procédure judiciaire exposée par le maire en congé, maître Sylvain Kanyamanda. D'après Franck Mukesi, président du Conseil urbain de la jeunesse, il s'agit d'une formation continue qui se déroule tous les week-ends en vue de préparer les jeunes à la gestion de la chose publique. Il est au micro de Florida Kahambu.
C'est une formation qui va être continuelle. Chaque week-end, il y aura toujours des thèmes et c'est surtout à compétences pratiques. Bien sûr, on a été formés à l'université, à l'école, mais nous avons trouvé que d'ailleurs, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'insuffisances dans la plupart des jeunes qui sont aussi responsables d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont des leaders des associations, mais on a trouvé des insuffisances. C'est ici qu'on a lancé cette initiative. Vous avez la jeunesse, les jeunes, c'est eux qui vont chapeauter presque tout les jours à venir. Et voilà, on ne veut pas assister à des surprises ou de quelqu'un qui va se faire former sur les milieux professionnels. Il faut quand même qu'on y arrive avec les minimums et quand même qu'il soit aussi compétitif. Actuellement, il y a aussi beaucoup d'opportunités d'emploi. Mais quand un jeune est toujours dans des théories, il ne sait même pas être compétitif pour accéder ne fût-ce qu'à l'emploi. Une lettre de demande, par exemple, d'emploi, comment est-ce qu'il va se comporter à face des tests oraux ou écrits. Donc les jeunes qui soient en mesure d'affronter réellement les mondes professionnels avec des compétences techniques qu'ils ont et qu'ils soient amusés aussi de gérer même les structures, les petites structures qu'ils ont, qu'ils soient amusés de bien les gérer. Quand on est déjà informé sur l'administration publique, par exemple, on saura que nous avons tel problème à qui s'occuper la mini.
Province du Maniema, 48 agents de santé sur 175 sont des doublons, constat fait lors du troisième trimestre par le collectif des syndicats des professionnels de santé non médecins et administratifs lors de leur assemblée générale du 13 janvier dernier. Dans une interview à Radio Capi, vendredi 15 janvier, ces professionnels demandent qu'ils soient récomposés. Par rapport à la signature du protocole d'accord, il plaide pour la mise en application de manière à ce que la solution définitive pour que la grève soit suspendue ou levée. Suivons le compte-rendu de cette rencontre avec Masumbuko Selemani, Dieudonné, directeur rapporteur du groupe au micro de Florence Kizalunga.
Les syndiqués se sont prononcés en ces termes. La province du Maniema, lors de l'alignement du T3 2021, s'est retrouvée avec 48 doublons sur les 175 alignés. Donc, un manque à gagner des 48 agents qui nécessitent d'être compensés à l'alignement prochain. Par rapport aux effectifs des alignés par catégorie professionnelle et par province, province, il a été constaté que les nombres présentés étaient bruts. Or, il fallait présenter la quotité par catégorie et par province. Quant à la signature du protocole d'accord conformément au passé, les participants ont ému la peur d'être floués par la partie gouvernementale, qui n'a jamais respecté ses engagements. Cette signature ne rassure pas, car elle est la quantième qui sera bafouée. Et au finish, quant à la poursuite de la grève, les participants se sont mis d'accord sur sa continuation et son maintien jusqu'à la signature du protocole entre les parties prenantes et attendre du banc syndical les mots d'ordre, soit pour la suspension, soit pour la levée du mouvement de grève. J'espère que le gouvernement va respecter ses engagements après la signature avec le banc syndical.
Retour au Sud Kivu, le bureau urbain de la Société civile de Bukavu a lancé samedi l'assaut contre l'insalubrité dans la ville. Ces travaux ont eu lieu sur place, sur la place de l'Indépendance, dans la commune d'Ibanda, à travers des travaux d'assainissement Salongo qui a connu la participation du commissariat de la ville ainsi que de la mairie. Une pratique que la population de Bukavu a abandonnée depuis peu et qui contribue à ce jour à l'insalubrité de la ville. La société civile de bureau qui a lancé ces travaux émet le vœu de voir la population s'approprier cette activité d'une grande importance. Le président du bureau urbain de la société civile de Bukavu, Jackson Kalimba, le dit dans cet extrait choisi par Rachel Kessembango.
Nous avons lancé un assaut contre l'insalubrité au niveau de la ville de Bukavu après avoir constaté que la population ne fait plus les travaux communautaires. Dans les anciens temps, on se retrouvait chaque samedi. On prenait des heures pour les travaux communautaires pour rendre salubre la ville. Mais aujourd'hui, la ville est devenue très sale. C'était une manière d'interpellation à notre population, étant donné que nous tous nous sommes producteurs de déchets et nous devons savoir comment gérer nos déchets. Si les déchets ne sont pas bien gérés, ça détruit la chaussée et même aussi ça détruit l'écosystème. Nous voulons appeler notre population à une prise de conscience au cadre des bases et nous-mêmes pour savoir comment nous devons gérer les déchets que nous avons toujours produits dans nos ménages. Et ainsi, nous pensons continuer toujours dans d'autres communes de la ville de Bukavu pour faire des travaux communautaires en vue d'amener toujours notre...
C'est en principe en début février 2022 que le président Félix Tshisekedi va céder son bâton de commandement de président de l'Union africaine au président sénégalais Macky Sall. Voilà qui justifie la tenue hier samedi 15 janvier 2022 de la toute dernière réunion qu'il a présidée en visioconférence en présence de quelques chefs d'État africains et de la task force qui accompagne sa mandature à la tête de l'UA. Au cours de cette réunion, Félix Tshisekedi a présenté un bilan sommaire de son passage à la tête de l'Union africaine. C'est notamment les solutions apportées dans les efforts des États africains dans la lutte contre le Covid-19 en Afrique, des mesures de relance des économies africaines, des questions liées à la paix et à la sécurité, de même que des questions relatives au thème principal de la mandature, en l'occurrence, art et culture, les pieds de l'édification d'une Afrique que nous voulons. Rappelons que c'est depuis le 6 février 2021 que Félix Tshisekedi est à la tête de la présidence de l'Union africaine. Parlons à présent de la journée du 16 janvier qui rappelle l'assassinat de Musée Laurent-Désiré Kabila. 21 ans depuis l'assassinat du troisième président de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, Jean-Michel Samalou Kondé, premier ministre congolais, a au nom du président de la République déposé ce dimanche une gerbe des fleurs au mausolée de l'ancien chef de l'État dans la commune de la Gombe. C'était avant de coucher quelques mots dans le livre d'or en mémoire des l'illustre disparu. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des divers officiels congolais et membres de la fondation Musée Laurent-Désiré Kabila. Le collectif des compagnons de Laurent-Désiré Kabila demande aux Congolais de s'approprier de l'idéologie de ce héros national en rapport avec l'autoprise en charge et la transformation de leurs ressources en richesse pour le développement de la RDC. C'est ce qu'a déclaré hier samedi à Kinshasa le président de ce collectif en marge de la commémoration de 21 ans de la mort de cet ancien président de la République. Willy Kaoulou recommande ainsi au gouvernement de renforcer les différentes structures laissées par Musée Laurent-Désiré Kabila, telles que le service national, les cantines populaires. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Les gens doivent s'approprier de l'idéologie de Musée Laurent-Désiré. Nous devons effectivement nous prendre en charge sur tout le plan. Nous devons travailler pour le développement de ces pays. Nous devons tout faire pour que le Congo puisse jouir de ses ressources et de ses richesses. Il y a des exemples, vous savez, avec le service national. Donc c'était une certaine prise en charge sur le plan alimentaire. Et si nous avons une bonne armée, nous sommes capables de défendre notre pays. Si nous faisons une très bonne économie, de très bonnes finances, c'est pour que nous ne puissions manquer de rien. Et Mouzé l'a démontré dans peu de temps. Nous n'avions pas de l'aide financière. Les institutions de Bretton Woods n'étaient pas en partenariat avec nous à l'époque de Mouzé. Mais nous payons nos fonctionnaires avec les propres moyens que nous trouvions ici au Congo. Mouzé, il est parti, ne nous a pas laissé avec une dette internationale. Je crois qu'on devrait du moins renforcer les différentes structures que Mouzé avait déjà entamées, qui puissent nous amener à une certaine autoprise en charge d'une manière générale dans les différents domaines. Il y a les services nationaux, il y a eu des cantines populaires.
Actualité internationale.
Le Mali porte plainte contre la CEDEAO. Le premier ministre de la transition a annoncé porter devant la justice les sanctions économiques imposées par la CEDEAO et l'UMOA. Dans une longue interview diffusée sur la télévision d'État ORTM, Choguel Maïga a expliqué porter plainte devant les institutions sous-régionales, africaines et internationales au sujet des mesures prises à l'encontre de son pays. À propos de la CEDEAO, il a déclaré que l'erreur du groupe est de tout ramener aux élections qui ne sont pas une fin en soi. Staffan de Mistura, l'envoyé de l'ONU pour le Sahara occidental, a rendu visite à des réfugiés en Algérie. Le pays abrite des personnes déplacées par les combats opposant le Maroc et le Front Polisario. Ce dernier, demandant l'indépendance du territoire après plusieurs décennies d'impasse diplomatique, la frustration monte chez les militants indépendantistes. Le Maroc propose une plus grande autonomie sous sa souveraineté au Sahara occidental, tandis que ce dernier demande un référendum d'autodétermination supervisé par l'ONU.
L'invité.
7 janvier 2001, 7 janvier 2022, voilà 21 ans qu'était assassiné le président de la République, Mouzé Laurent Désiré Kabila. 21 ans après, que peut-on encore retenir de son héritage? Pour en parler, nous recevrons dans ce journal Raphaël Nguenda, ancien porte-parole de l'AFDL et ancien porte-parole du gouvernement de salut public de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il s'entretient avec Alain Young.
Raphaël Nguenda, bonjour.
Bonjour.
Ça fait pratiquement 21 ans qu'était assassiné Mouzé Laurent Désiré Kabila. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui?
Bien, vous savez que c'était un leader politique issu de la lutte menée par Patrice Emery Lumumba et d'autres nationalistes qui ont conquis l'indépendance en 1960. C'est Mouzé qui finalement se révélera comme le leader qui fera aboutir cette lutte le 17 mai 1997. Donc il se distraira pendant tout ce trajet par sa fidélité aux fondamentaux sur lesquels reposait la lutte des nationalistes patriotes des années 50-60. Et il se distraira aussi par des innovations en termes idéologiques avec sa politique et son idéologie d'autoprise en charge, n'est-ce pas, du peuple qui aurait permis à la population, au peuple congolais, d'assumer ses responsabilités politiques en termes d'exercice du pouvoir à tous les niveaux, mais surtout d'avoir redonné à notre pays son nom prestigieux de République démocratique du Congo. Et c'est ça qu'il faut, entre autres, retenir.
Qu'est-ce que vous répondez à certains Congolais qui pensent que l'insécurité permanente aujourd'hui dans l'Est de la RDC est l'héritage de l'AFDL?
Je pense que les mondes occidental et ses agents locaux ici au Congo ont de grandes capacités de mystification de l'histoire. Et ce sont eux qui, justement, véhiculent cette perception de choses. Alors qu'en réalité, si on voit bien les choses, pour ne pas aller jusqu'au déluge, on se souviendra qu'avant même la création de l'AFDL, il y a eu un déversement considérable des non-voisins qui, après un génocide qui avait été perpétré au Rwanda, se sont répandus dans nos contrées de l'Est. Et en plus de cela, il y a des conflits interethniques persistants depuis bien avant la création de l'AFDL. Et ces conflits-là n'ont jamais été mis fin et persistent jusqu'à aujourd'hui parmi d'autres formes de conflits qui ont été créés par les puissances étrangères pour perpétrer et continuer le pillage de nos ressources là-bas. Donc, ce n'est pas le fait de l'AFDEL. Vous savez que l'AFDEL a fait une guerre qu'on peut appeler une guerre propre, puisque les combattants de l'AFDEL étaient particulièrement idéologiquement outillés et ils n'ont pas perpétré des massacres comme les autres qui les ont succédés à Kasika, Mwenga et Kisangani, etc.
C'est Laurent Désiré Kabila assassiné. Il y a un procès qui avait commencé. Certains de vos camarades de lutte avaient été incarcérés. Il y en a qui ont été libérés récemment par une grâce présidentielle. Quelle lecture vous faites de ce procès 21 ans après? Est-ce que ça vous laisse un goût d'inachevé?
Oui, c'était un goût d'inachevé pour nous tous. Je crois que c'était un procès qui a laissé quelques points d'ombre. Mais bon, vous savez, nous sommes dans notre pays avec une culture politique que vous connaissez. Bon, ça s'est déroulé comme ça, parce que c'est comme ça que ça pouvait se dérouler dans ces circonstances-là.
Et vous souhaiterez, par exemple, qu'un autre procès reprenne pour tirer les choses au clair?
Mais vous savez, si on a soif de justice, on ne peut pas ne pas assouvir. Je pense que nous avons tous besoin de vérité. Si on peut justement faire justice en reprenant ce genre de procès, ça ne me dérangerait pas.
Est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer, vous, les anciens de l'AFDEL, vous vous considérez comme les oubliés de la République?
Vous voyez, depuis San City, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là où le processus de réorganisation de notre pays, selon la philosophie politique d'autoprise en charge, a pris fin. Il y a des Congolais qui sont en rupture avec les antivaleurs, c'est-à-dire les incorruptibles de l'AFDEL et de la philosophie politique de Mouzé. Alors, je pense qu'il n'est pas tard qu'après ce constat-là, qu'on puisse mettre en service tous ceux-là qui ont été identifiés de cette manière-là par l'ancien président et le nouveau.
Raphaël Guenda, merci beaucoup.
Fidèles auditeurs de Radio Okapi, c'est avec cet entretien que nous mettons un terme à cette édition du journal Parler sur Radio Okapi, préparée par Richard Junior Kamunga et Billy Yvan Lutumba était à la présentation. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention.